Alphonse Koubguima, Nation Remise en Onde, bonjour et bienvenue à cette édition de ce samedi 12 octobre 2019. Donc voici d'abord les titres. Nous sommes à la veille de la journée internationale dédiée à la prévention des catastrophes célébrée le 13 octobre de chaque année. Pas mal d'infrastructures publiques ont été ravagées par un déglissement de terrain, a déclaré le ministre Alain Guillaume Erugnoni ayant la gestion des catastrophes dans ses attributions. Une situation qui se manifeste également au quartier Karurama, au chef-lieu de la province Chibitoke. Et le président de la commission Vérité et Conciliation plaide pour la protection des témoins des crimes perpétrés au cours des crises cycliques qu'a connu le Burundi. Vous aurez les détails dans le reportage de notre conseiller Onera Mucho. Pierre Claver Ndayichalier appelle la population à donner leurs révélations sans crainte. Et certains enseignants ont déployé en province et le Mwangé déplorent les conditions de vie de leur famille. Les syndicats des enseignants l'ont exprimé ce vendredi lors de la célébration de la Journée internationale de l'enseignant. Nous appellerons notre correspondant depuis le Mwangé, Jean-Pierre Misago. Et à la fin de cette édition, je me rejoins Jean-Bosco Nduimana pour la revue de la presse. Voilà pour les grands titres.
Isanganiro, la radio de l'avenir.
Bonjour, certains députés s'inquiètent de l'état des bâtiments tenant lieu des hommes ou des bureaux des policiers. Ils estiment que ces bâtiments pourraient un jour même s'effondrer à cause de leur état très vétuste. Ils ont exposé cette préoccupation lors d'une séance des questions orales adressées au ministre de la Sécurité ce jeudi. Suivez l'honorable Ephrasi Moutezinga, traduite en français par notre consoeur Marie-Claire Cazeneta.
En visitant votre police, on constate que leurs maisons d'habitation sont vétustes. L'on se demande si réellement ces endroits abritent ceux qui sont chargés de la sécurité de notre pays. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la bonne survie de cette police-là? Je reviens en ce qui est de leur ration alimentaire. Le fait qu'ils ne sont pas bien nourris, avec aussi un salaire insuffisant, ne sont-ils pas la cause de leur mauvais comportement, du fait qu'ils ne sont pas bien traités?
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
À ce sujet, le ministre de la Sécurité Alain Guillaume Erugnoni fait savoir qu'il y a des travaux en cours pour innover certains bâtiments. Parmi ces travaux, il souligne la construction des édifices qui vont abriter certains commissariats de la police. Suivez le ministre Alain Guillaume Erugnoni.
Souvenez-vous que vous avez effectué une visite de travail là où habitent les policiers. Vous avez sans doute proposé une orientation de la question au gouvernement. Celui-ci s'est aussi penché sur la question et nous essayons de la résoudre en trois étapes. D'abord, nous nous préoccupons de l'assainissement des bureaux qui sont très sales, mais aussi nous essayons d'améliorer les bâtiments vétustes qui constituent une menace aux occupants. Cela aussi a été planifié et le budget est là. En deuxième lieu, nous construisons de nouveaux bâtiments lors des travaux de développement. Il y a aussi les bureaux de certains des commissariats qui sont en cours de construction. Troisièmement, nous avons inventorié tous les besoins et nous allons transmettre le rapport à l'État, au gouvernement, pour rendre disponible le budget nécessaire.
Et en province Chibitoke, la société du quartier Karurama, du chef-lieu de la province Chibitoke, de la commune Rugombo, en bas de la mosquée de Chibitoke, dit être menacée par les eaux de pluie qui viennent du quartier Karurama. Ses habitants demandent au service de l'urbanisme de canaliser ces eaux afin de protéger leur maison. Le responsable du service de l'urbanisme à Chibitoke affirme qu'il a déjà donné le rapport à ses chefs hiérarchiques, mais qu'il n'a pas encore eu de réponse. Alexine Daïra-Guidje, correspondance.
Les ménages qui sont menacés par ces eaux de pluie en provenance du quartier Karurama, du chef-lieu de la province Chibitoke de la commune Rugombo, sont évalués à plus de 30. Ces eaux, surtout, tombent des toitures des maisons du quartier Karurama. D'autres viennent de l'usine du ciment Buseko lorsque la pluie tombe. Ces eaux ont déjà créé un ravin en direction du canal central, des eaux en direction de la rivière Rusizi. Pour le moment, un des habitants du quartier menacé a déjà installé un petit pont afin que les enfants qui le traversent en direction des écoles respectives ne tombent pas dans ce ravin. Lorsqu'alors la pluie tombe, ces eaux souvent infiltrent les maisons en endommageant certains biens si elles ne démolissent pas les maisons. Les habitants menacés par ces eaux demandent au service de l'urbanisme de les canaliser pour éviter le pire. Le responsable de l'urbanisme à Chibitoke indique qu'il est au courant de cette situation, qu'il a même donné le rapport à ses autorités hiérarchiques, tout en précisant que le travail de canalisation de ces eaux nécessitera des fonds énormes. Au sein de la police de protection civile, un des responsables de cette police nous a indiqué que ce problème est connu, mais que la solution n'est pas immédiate. Depuis Chibitoke, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro.
Merci Alexis. Et des infrastructures publiques comme des structures sanitaires, les établissements scolaires et les routes sont menacées par des catastrophes au Burundi. Le ministre de la Sécurité publique l'a déclaré l'après-midi de ce jeudi à l'occasion de la célébration de la journée internationale dédiée à la prévention des catastrophes célébrée le 13 octobre. Commissaire de police chef Alain Guillaume Bugnoni a invité le gouvernement burundais et les organisations humanitaires œuvrant dans ce secteur de redoubler d'efforts dans l'assistance des personnes affectées par les catastrophes. Suivez le ministre Alain Guillaume Bugnoni.
Au cours de la dernière décennie, des glissements de terrain et des vents violents ont affecté des infrastructures publiques et privées dans plusieurs localités du pays et interrompu des services de base dans les secteurs de l'éducation et de la santé. À titre illustratif, le lycée Clarté Notre-Dame de Vougizo a été abandonné en 2009 à la suite de la destruction des berges du ravin Rubanza. Certains blocs du centre hospitalo-universitaire de Kamenge ont été endommagés par une grande fissuration, tandis qu'un pont a été détruit sur l'avenue Mutaga 3 dans la zone Musaga. Dans la province de Bujumbura, les éducateurs et les élèves de l'école fondamentale de Buima 1 et de Miaba craignent l'effondrement des salles de classe qui sont affectées par de grandes fissures. Le centre de santé de Buima 1 de la commune Mutambu est dans les mêmes conditions, tandis que la route nationale numéro 7 est menacée de coupure au poteau kilométrique 18 par un ravin de la rivière Nyarurangara. Dans la province de Muyinga, d'impressionnants glissements de terrain s'observent dans les communes de Gashoho, Gasorwe, Butihinda et au chef-lieu même de la province de Muyinga. Le gouvernement lance un appel pressant à ses partenaires techniques et financiers, aux acteurs humanitaires et aux agences de coopération de l'accompagner dans ce vaste chantier de réhabilitation d'infrastructures détruites ou endommagées par des catastrophes pour un Burundi meilleur.
Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel.
À 13h06 dans les studios de la radio Isanganiro, page justice transitionnelle. À présent, la loi régissant la commission Vérité et Réconciliation Sévère prévoit les méthodes de protection des victimes et des témoins. Le président de cette commission l'a dit au cours de cette semaine lors de la réunion entre la Sévère et l'Assemblée nationale. Pierre Claver Ndaïchalier a appelé la population ayant des révélations à se confier à la Sévère. Ornella Mucho.
De la réunion entre la Sévère et l'Assemblée nationale, des députés ont voulu savoir ce que la Sévère prévoit faire en ce qui concerne la protection des témoins. Le président de cette commission, Pierre Claver Ndaïchalier, indique que normalement, il y a différents moyens de protection des témoins et surtout en collaboration avec la population.
Le premier angle, c'est de dire que la première sécurité d'un témoin, elle est d'abord personnelle. Ça veut dire, je suis conscient et je suis convaincu que ce que je dis reflète la réalité, c'est-à-dire ce qui s'est passé. Donc, il ne faut pas mentir. Et cette réalité, ça veut dire les faits. Et les faits sont têtus. La deuxième protection, quand vous dites la vérité, c'est une protection de la communauté. Parce que, encore une fois, les blessures que nous traînons, ce sont des blessures communautaires et la communauté protège ceux qui disent la vérité dans le sens de libérer la parole, la vérité et libérer la communauté.
Pierre Claver Ndaïchalier souligne qu'à part la collaboration avec la population, la commission prévoit également d'autres techniques de protection appelées unités de protection des témoins.
La question de la protection des témoins et des victimes, elle est tranchée dans la loi sur la Sévère, la loi de novembre 2018.
La Sévère demande aux députés qui participent dans différentes sessions est-africaines ou dans l'Union parlementaire de leur informer que la Sévère planifie faire des enquêtes, même à l'extérieur du pays.
Ornella Mocho. Page éducation, certains ménages et des enseignants ont déployé un programme scolaire de Lumonge vivent dans une extrême pauvreté et d'autres sont presque désarticulés. Samuel Manelakiza, qui s'est exprimé au nom de la famille syndicale des enseignants de Lumonge ce vendredi lors de la célébration de la Journée internationale de l'enseignant, demande au ministère de tutelle de se pencher sur ce cas pour la qualité de l'enseignement. Jean-Pierre Misako.
Certains enseignants redéployés en province Lumonge ne sont plus à mesure d'entreprendre des projets d'autodéveloppement. Les moyens qui pouvaient leur servir de base sont actuellement dépensés comme frais de déplacement, comme le fait remarquer Samuel Manelakiza au nom de la famille syndicale de Lumonge lors de la célébration à Lumonge ce vendredi de la Journée internationale de l'enseignant. Par ailleurs, selon son représentant syndical, cette situation est l'une des causes du mauvais rendement observé actuellement dans les écoles ainsi que la dislocation de certaines familles. Car selon lui, certains enseignants redéployés se retrouvent dans l'incapacité de rentrer quotidiennement chez eux. Ici, Samuel Manelakiza, au nom des enseignants de la province de Lumonge, demande au ministère ayant l'éducation dans ses attributions de réanalyser cette question du redéploiement en faveur de la qualité de l'enseignement. Pour cette année, la Journée internationale de l'enseignant, normalement célébré le 5 octobre, avait pour thème les jeunes enseignants, l'avenir de la profession. Jean-Pierre Misago de Lumonge, Radio Isanganiro.
Merci Jean-Pierre Misago. Et non loin de Lumonge, des jeunes sans emploi de la commune et province de Bururi ayant terminé leurs études secondaires et qui n'ont pas poursuivi leurs études universitaires font savoir que pour faire face à ce manque d'emploi, ils se sont regroupés dans des associations. Et grâce à cette initiative, ils affirment qu'ils n'ont rien à s'inquiéter puisqu'ils peuvent se procurer de ce dont ils ont besoin. Le conseiller social et du gouverneur de la province de Bururi note l'autonomie financière des jeunes qui renforce la sécurité sociale et le développement local. Les détails avec Vestine Boutoui.
Ces jeunes ayant terminé leurs études secondaires, mais sans toutefois avoir la chance de continuer leurs études universitaires ou décrocher l'emploi, rencontrés sur la colline de Murago de la commune et province de Bururi, disent que son manque d'emploi les a poussés à se regrouper en tontine. Actuellement, ils affirment que grâce à leur adhésion dans ces tontines, ils y sont capables de satisfaire certains de leurs besoins. De plus, ce jeune signale qu'ils accèdent facilement au crédit pour pouvoir entreprendre d'autres activités générales de revenus, notamment l'agriculture et l'élevage.
Il arrive un moment où je suis en besoin d'un crédit pour pouvoir réaliser mes activités concernant l'agriculture et l'élevage. Et donc, ce cas, je m'adresse auprès de ces tontuines pour s'en procurer sans aucune difficulté.
Quant au conseiller social et du gouverneur de la province de Bururi, Juvan Daikeza, l'autonomie financière des jeunes sans emploi peut contrecarrer l'instrumentalisation des jeunes par les politiciens en vue de renforcer la sécurité sociale et le développement local.
D'abord, il y a le renforcement de la sécurité puisque ces gens ne se lancent pas dans la débauche, dans la consommation des boissons prohibées. Donc, il y a la valeur ajoutée. Donc, il n'y a pas de gens qui déstabilisent la population. Aussi, comme ils sont en train de tout faire pour gagner la vie en faisant du commerce, en faisant des activités génératrices de revenus, ils se préparent pour leur avenir.
Au moment où ces jeunes de la colline Murago en commune et province de Bururi demandent un appui financier pour la réalisation de leurs projets déjà planifiés mais sans fonds, Juvan Daikeza conseille ces jeunes de soumettre leurs projets auprès de l'administration afin de le financer s'il y a la possibilité ou bien approcher les ONG tant nationales qu'internationales pour leur demander de l'aide dans le but de mettre au point ces projets.
Merci Vestine pour clore cette édition en page sportive. 14 équipes ont participé à la compétition de karaté regroupant les clubs de la région ouest qui se déroule à Bujumbura. Le président de la Fédération burundaise de karaté fait savoir que cette compétition a été organisée dans le but de renforcer le sport à l'intérieur du pays. Quant à la participante Marvela Iteka, elle indique et appelle les autres filles à s'intégrer dans le karaté, n'est-ce pas Marie-Claire Cadenette?
Cette compétition de karaté regroupant les clubs des régions ouest a été organisée dans le cadre de soutenir les clubs de l'intérieur du pays pour qu'ils puissent organiser les compétitions en respectant les normes de ce sport. Cela est dit par Christophe Murundiza, président de la Fédération burundaise de karaté.
Aujourd'hui, nous avons organisé le championnat qui s'organisait au niveau national. Tellement on a commencé par les régions, c'est-à-dire on aura 4 championnats régionaux. Aujourd'hui, on a commencé par les régions ouest et dans 2 semaines, c'est organisé à Gitega pour la région centre et 2 semaines suivantes dans la région nord, à Ngozi et après à Muyinga pour la région sud-est.
Ce président de la Fédération de karaté au Burundi appelle les amateurs de sport à venir massivement assister à cette compétition.
J'invite les parents, les amis, les voisins, les familles des karatéka de venir regarder, assister, encourager cette jeunesse burundaise. Pourquoi pas les représentants ou les dirigeants des entreprises pour qu'ils puissent découvrir ces talents burundais.
Le karaté n'est pas le sport blessant et n'est pas destiné seulement aux garçons. C'est l'explication de Malvela Iteka, l'une des participants qui appelle les parents de permettre aux filles de pratiquer le karaté.
Nous sommes bien préparés car on est ici pour la compétition de la Fédération burundaise de karaté a organisé ce championnat régional. Vous avez vu, c'est sur le thème cohésion sociale et inclusion. Je fais appel à d'autres filles car beaucoup de filles ont peur de venir dans cette activité car beaucoup de parents pensent que les filles ne peuvent pas faire le karaté comme les autres. Ils pensent que le karaté c'est pour les garçons seulement alors que c'est pas limité pour les garçons seulement. Même les filles peuvent faire cette activité.
14 équipes de la région ouest se sont représentées dans cette compétition régionale qui va se clôturer ce dimanche.
Merci Marie-Claire, c'est par cette page sportive que nous mettons point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Koubimana pour la mise en onde. Mais tout de suite, c'est la revue de la presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Revue de la presse.
Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'endroit d'où vous nous écoutez.
Ouvrons cette revue de presse par le journal Iwacu, qui revient dans son éditorial sur la sentence rendue le 8 octobre dernier par le tribunal de grande instance de Muyinga, qui a condamné à perpétuité 4 personnes poursuivies pour meurtre d'un membre du parti CNL de la colline Kuitongo en zone Rugari, une sentence saluée par le public estimant que la décision de ce tribunal vient de redorer quelque peu le blason terni de cette institution, pilier de la démocratie. Cet hebdomadaire rappelle que, à tort ou à raison, la justice burundaise a été vilipendée, diffamée, décriée, surtout par ceux qui n'arrivent pas à avoir gain de cause. Des expressions défaitistes sont devenues monnaie courante. Deux poids, deux mesures, une justice à deux vitesses, une justice à la solde de l'exécutif, poursuit notre confrère.
Notre confrère espère qu'à l'aube des élections, l'exemple du tribunal de grande instance de Muyinga devrait servir d'exemple à d'autres cours et tribunaux sur toute l'étendue de la République. Le journal Iwacu, reprenant la définition de Noël Dufaille, juriste et écrivain français du XVIe siècle, note que le bon juge doit rester neutre envers toute personne, de quelque grade, dignité, qualité et condition qu'elle soit. Ainsi, explique notre confrère, les hommes et les femmes de la loi auront à résister aux sollicitations des politiques, à se séparer de l'exécutif dont la tendance est de s'immiscer dans le fonctionnement de leur institution. Et surtout, conclut l'éditorialiste du journal Iwacu, ils auront montré, comme le défend jalousement Robert Badinter, que juger est un métier.
Le choléra fait parler de lui dans certaines communes de la province de Bujumbura, titre l'agence burundaise de presse, qui précise que cette maladie est signalée dans Mutimbuzi, Isare, Kabedzi, ainsi que dans la commune de Mutambu, qui enregistre à elle seule 9 patients jusqu'en fin de la semaine dernière. 3 zones sur 4 que compte la commune Mutimbuzi font face au choléra. Il s'agit des zones Gatumba, Rukaramu et Maramvya. Le journal Iwachu rapporte que 14 personnes de la zone Rukaramu ont attrapé le choléra depuis la semaine dernière.
Deux d'entre elles en ont succombé, précise ce journal. Pour les habitants de cette localité, ce fléau fait rage suite à la pénurie d'eau potable depuis plus d'un mois. Et les collines Kigwati 1 et Kigwati 2 sont plongées dans la misère. Plus d'eau potable depuis bientôt deux mois. Les canaux d'irrigation issus de la rivière Manda constituent ce qui reste de l'hydrographie de cette contrée, constate notre confrère Iwachu. Et l'ABP précise aussi que, selon les chefs de district sanitaire de Kabezi et Issare, il n'y a pas de maison qui brûle car la situation est maîtrisable.
Revue de la presse.
Enseignement fondamental et post-fondamental, des recommandations de perfection renvoyées aux calendes grecques, titre le journal La Voix de l'enseignant.
Il révèle que depuis l'introduction de la réforme du fondamental et du post-fondamental, il se tient des ateliers d'auto-évaluation organisés par le ministère en charge de l'éducation. Les recommandations issues de ces ateliers tardent à être mises en application, ce qui fait que dans certains cas où des erreurs ont été décelées, elles perdurent, regrette notre confrère.
Au niveau du fondamental, les défis relevés par les experts cités par cet hebdomadaire de l'éducation concernent le côté pédagogique et organisationnel. Le domaine des sciences et technologies est un problème sérieux quant à la dispense. Dans le domaine des mathématiques et toujours dans le fondamental, poursuit-il, les programmes sont vastes selon l'atelier des 26 et 27 février 2019 fait par le directeur du bureau d'études des Kurkula de l'enseignement post-fondamental Tarsis Habouniman.
Idem au niveau du post-fondamental. Et pour conclure, ce numéro trouve que les études sont faites et les recommandations sont énoncées, mais leur mise en application tarde à venir, déplore la voix de l'enseignant.
Plus de 200 praticiens de Dunyuri décédés à la RN1, le bilan dressé par le journal Burundi Echo, qui prévient que les cyclistes qui s'accrochent sur les camions dits Dunyuri sont exposés à beaucoup de dangers. À la RN1, plus de 200 cyclistes nous ont quittés suite à cette pratique tout au long de la décennie écoulée, regrette l'association Solidarité pour la paix et le développement de la province Bujumbura Sopadebu, dans une séance de sensibilisation à l'endroit des cyclistes organisés en collaboration avec la Barudi, qui informe que d'autres sont devenus handicapés.
Cette situation, écrit toujours Burundi Echo, inquiète la Barudi qui dit qu'elle a placardé des messages sur ses camions qui interdisent cette pratique. Toutefois, Pascal Ngendakuriyo, président de cette association, apprécie que cette pratique a diminué à 92% grâce aux efforts de la police et de l'administration, rapporte Burundi Echo. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par
Eline Belnibigira
et Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine.
Revue de la presse.